Ah, très, très heureux d'être parmi vous ce matin avec mon épouse. Je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai eu à cœur de vous parler de la maturité spirituelle, un thème qui, je pense, est important dans la saison que vous vivez avec un futur changement de pasteur, qui est toujours un moment particulier pour une église. Et voilà, j'ai eu à cœur de prêcher là-dessus par rapport à ça. Juste vous dire aussi que ce n'est pas nos habitudes entre pasteurs de dire « Ah, tu vas prêcher, alors tu vas dire ça, puis il y a un tel qui a besoin d'entendre dire ça. » Je préfère prévenir avant, parce que justement sur ce thème de la maturité spirituelle, j'avais eu l'occasion de prêcher dans une église un jour, et puis comme je suis quelqu'un de très pratique, vous allez le voir, je vais vraiment dans les faits, il y a quelqu'un qui s'est vraiment senti visé par la prédication. Et il a cru que le pasteur m'avait dit de dire. Et ça a créé des soucis à ce pauvre pasteur. Donc je ne veux pas créer de soucis à Thierry et Raymond, pas du tout. Simplement partager ce qu'il y a sur mon cœur. Si à un moment donné le Seigneur vous interpelle, prenez-le comme venant de lui et puis faites ce qu'il vous demande de faire, tout simplement. Soyons humbles, soyons capables d'être aussi parfois repris, encouragés. Amen. Je commence avec une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4. C'est bien parce qu'on a commencé avec un chant qui encourageait, qui donnait de la valeur aux enfants qui louent le Seigneur. On vient de prier pour les enfants. Et voyez ce que dit Jésus ici dans ce texte. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors peut-être que quand on parle de maturité, vous attendiez pas à ce que je vous parle d'enfant, mais le royaume des cieux, il n'a pas la logique du royaume des hommes. Et Dieu nous prend à chaque fois à revers sur nos manières de fonctionner, de penser. Et j'aime à chaque fois qu'il bouscule les gens comme ça lorsqu'il parle avec eux. Et ici, il va les bousculer en leur disant: Voyez, vous croyez que vous êtes quelqu'un, vous croyez que vous êtes sage, vous croyez que vous êtes intelligent. Prends un petit enfant et dis: Lui, il est plus grand que vous. Et moi, ça m'interpelle de suite, et ça me parle premièrement d'un des fruits, des premiers fruits de la maturité spirituelle, qui est l'humilité. L'humilité, c'est naturel chez vous, n'est-ce pas? Chez moi aussi. La qualité d'un enfant, c'est son humilité. Un enfant, il n'a pas le choix. Il a tout à découvrir, il est conscient qu'il connaît rien, quoi. Et puis même, vous pouvez venir en tant que parent et lui dire n'importe quoi. Même si c'est n'importe quoi, il va dire OK, parce qu'il ne connaît pas. Vous connaissez ce texte dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Jésus est en train de former ses disciples pour le service. C'est le fameux sermon sur la montagne, il a plus exactement les béatitudes, et il dit, ceci commence les béatitudes en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a une logique dans ce que dit Jésus. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les gens qui sont un peu bébêtes, qui auraient des problèmes intellectuels ou autres. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent ne savoir rien concernant les choses spirituelles. Dans la version Chouraki, la traduction, c'est les humiliés du souffle. Et dans la version Semeur, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. La première épître aux Corinthiens est intéressante dans ce thème de la maturité, justement parce que c'est une église que Paul va déclarer comme immature. Et il y a plusieurs versets on y reviendra dans ce message, dans cette première épître aux Corinthiens qui vont nous intéresser. J'en citerai un pour commencer, c'est dans le chapitre 8, verset 2. « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Et en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes appelés à connaître et à parler de quelqu'un, en l'occurrence de Dieu, de la Trinité qu'il représente, et que notre intelligence en elle-même, je vais dire mon intelligence, je vais parler pour moi, je ne veux pas vous choquer, elle ne suffit pas pour comprendre, pour appréhender ces choses. Elle est vraiment trop faible. Paul l'exprime très bien, Paul qui, au niveau théologique, n'était pas le dernier venu. Il va dire ceci aux Corinthiens, « Moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, autrement dit sur toute sa connaissance, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. » Ah, je suis impressionné par l'humilité de Paul, qui aurait pu arriver avec tout son bagage. Et il va poursuivre ensuite en disant un peu plus loin dans le chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, verset, la deuxième partie verset 10 jusqu'au verset 13, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, amen, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel, pour les choses spirituelles. Tout cela, Paul le souligne, je l'ai dit, aux Corinthiens, parce que justement, et au chapitre 3, il va leur dire en suivant, il est en train de faire toute cette argumentation pour en venir au chapitre 3 et à cette conclusion, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. En Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. On aura l'occasion de voir en quoi ils étaient charnels. L'apôtre Jean vient compléter ses analyses de Paul, et c'est un texte qui m'a vraiment interpellé. Il y a quelques années de cela, il se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 3, au verset 2. Et voici ce que nous dit Jean. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, écoutez bien, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi nous serons semblables à lui ? Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Autrement dit, la maturité spirituelle se construit dans l'humilité, mais aussi dans une recherche perpétuelle de la connaissance de qui est Dieu. Sachant que je pars de zéro. Je pars de zéro. Tout ce que je peux connaître de Dieu, je le reçois de son esprit. Pas de mon intelligence, pas de mes lectures, pas de ceci, etc. Je le reçois de l'esprit de Dieu. Le secret de la maturité spirituelle, en fait, c'est chercher à le connaître tel qu'il est. Évidemment, Jean fait référence au moment où on va le voir face à face. Et là, je pense, notre conception de Dieu, ça va nous bouleverser. Parce qu'on, comme le dit l'apôtre Paul, on connaît, il le dit aux Corinthiens d'ailleurs, on connaît que partiellement. Et le mot est faible quand on dit partiellement. Le prophète Osée dit ceci, « J'aime la piété et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Comprenez ce que ça veut dire, mes frères et sœurs ? Et parfois, nous sommes beaucoup dans « je fais, je donne, je sers », mais on l'a chanté, ce chant, il est magnifique. Ébloui. Est-ce qu'on se laisse éblouir par la personne de Christ ? Est-ce qu'on passe du temps en sa présence pour se laisser transformer ? Et connaître qui il est, la connaissance de qui il est, c'est ce qui opère une transformation en nous. L'apôtre Paul l'a bien compris, vous pourrez lire les introductions de ses épîtres, souvent il fait appel à cela, il dit « je prie pour vous, pour que vos yeux soient illuminés, pour que vous grandissiez dans la connaissance, etc. » Je voudrais voir deux points avec vous. On m'a dit que j'avais jusqu'à 14 heures pour la prochaine réunion, donc ça va. Premier point, c'est les moyens dont nous disposons pour le connaître tel qu'il est. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 à 9. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et alors, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» On peut marcher depuis longtemps avec le Seigneur et ne pas le connaître. Ça a été mon expérience. J'ai vécu longtemps, servi dans l'Église, etc., mais je peux confesser aujourd'hui que pendant beaucoup d'années, je ne connaissais pas Dieu comme j'aurais dû le connaître. Et je ne prétends pas être passé à un autre stade où je le connais parfaitement, pas du tout. C'est la communion avec Jésus. Connaître, le mot connaître, il est très fort dans la Bible. Il s'apparente même à la relation intime dans le couple. Et quand on peut dire qu'on connaît quelqu'un, c'est vraiment qu'on a une relation d'intimité avec lui. Et c'est premièrement la communion avec Jésus. C'est ce moyen qui nous est donné de grandir en maturité spirituelle. Jésus est le moyen qui nous est donné pour connaître le Père. Il le dit lui-même, on vient de le lire. Il est le moyen de la réconciliation. Le voile a été ôté et nous pouvons le voir face à face. Et l'apôtre Paul, toujours en s'adressant aux Corinthiens, 2e épître, chapitre 3, verset 18, dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Vos efforts, vos bonnes résolutions ne vous amèneront jamais à la maturité spirituelle. Nous sommes voués à l'échec lorsque nous voulons plaire à Dieu par nos propres forces. Mais l'intimité avec Dieu, au travers de Jésus-Christ, ça forge notre maturité. Amen. Nous ne méritions pas de le connaître tel qu'il est. Et pourtant, Jésus-Christ a ouvert cette voie pour que nous le connaissions tel qu'il est. Amen. Le deuxième moyen, c'est l'obéissance. Elle découle de l'intimité. Si je le vois tel qu'il est, ça c'est une chose que j'ai compris plus tard aussi, si vraiment je prends conscience de qui est Dieu, de ce qu'a fait Jésus-Christ, si ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, je ne peux pas faire autrement que de lui obéir et de me soumettre à lui. C'est pas quelque chose qu'on va m'obliger à faire. C'est quelque chose qui va être naturel. À partir du moment où je réalise vraiment qui il est, je ne peux pas faire autrement que d'être soumis. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 à 6, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes un en lui. Amen. Un en lui. L'obéissance, en fait, elle met Dieu en action pour opérer une transformation vers la maturité spirituelle. Que Dieu nous aide. Et déjà à connaître sa parole. À une époque, on se battait pour que les chrétiens mettent la parole en pratique. Mais aujourd'hui, on se bat pour que les chrétiens connaissent la parole. Comment voulez-vous la mettre en pratique si vous ne la connaissez pas? Et j'aurais pu vous amener, la Fédération protestante a sorti des statistiques l'année dernière qui sont très préoccupantes sur le nombre de personnes qui lisent la Bible dans nos églises. Et alors, il y a les protestants traditionnels et les évangéliques. Et là, on se dit, ouais, les évangéliques, quand même, on est au-dessus. Non, les statistiques ne disent pas ça. Troisième moyen, ce sont les ministères de la parole. Éphésiens 4, chapitre 11 à 13, verset 11 à 13, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons, écoutez bien, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, on peut traduire à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Bon, ça a l'air de vous enthousiasmer. C'est... Non, mais moi, franchement, quand je lis ça, je dis « Ouh ! Vous avez vu le programme ?» Et je suis destiné à être à la stature parfaite de Christ. Bon, il y a du travail. Mais je suis en marche. Je suis en marche et je veux pas faire partie de ceux qui disent « Oh là là, moi, ressembler à Christ !» Vous savez, ça c'est la fausse humilité, ça. C'est mon objectif. Je sais qu'ici-bas, sur Terre, jamais je n'atteindrai cet objectif, je le sais. Mais si je pars de là, ben, l'ennemi, il a gagné. Parce que je vais dire « Bon, c'est même pas la peine d'essayer, laisse tomber. » Mais non, nous sommes appelés à nous rapprocher du modèle. Amen. Et c'est un programme extraordinaire. Et Dieu a donné des ministères pour cela. Et le fait de venir écouter des personnes qui prêchent la parole, qui expliquent la parole, qui communiquent la parole, c'est quelque chose qui nous fait avancer vers la maturité spirituelle. C'est écrit, hein. Et puis, quatrième moyen, le Saint-Esprit. Je vais pas... Chaque point... pourrait faire l'objet d'une prédication, donc je ne vais pas m'étendre, mais je relis simplement ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 2. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit, de renouveler peut-être cette flamme de l'Esprit qu'il y a eu en nous à une époque, quand on s'est converti, tout feu, tout flamme. Et puis, pouf, on est tous faits de la même manière. Hein. Qui c'est qui peut dire, moi, naturellement, la flamme, elle est toujours vive, formidable? Non, on est obligé toujours de... C'est comme le feu de cheminée chez vous. Hein. Si vous en occupez pas, au bout d'un moment, que le Seigneur renouvelle en nous le Saint-Esprit et cette puissance qu'il opère en nous pour connaître qui est Dieu. Amen. Le deuxième point, c'est les fruits qui vont être démontrés dans nos vies. Donc là, je suis désolé, j'espère que je ne vais pas trop vous matraquer, mais je vais voir 14 points, mais on va le faire très rapidement. Et peut-être si vous avez besoin, je donnerai le PowerPoint à Thierry, et vous pourrez revoir tout ça chez vous. Le premier point, il va aller très vite. C'est l'humilité, et je ne vais pas y revenir, on en a parlé. Un fruit de la maturité, c'est l'humilité. Ok ? C'est vraiment important. Alors, je ne dis pas qu'ils sont dans l'ordre. Hein. Deuxième fruit, c'est celui qui est mûr spirituellement, c'est un artisan de paix. On revient à la première épître aux Corinthiens. où Paul dit ceci aux Corinthiens, en effet, 1 Corinthiens 3:3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Et l'apôtre Jacques, lui, nous dit plutôt, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Donc quand tu es en train de te disputer, pose-toi la question de ta maturité spirituelle. Je vais vite. Hein. Pas d'attachement à l'homme, troisième point, puisqu'on a vu l'humilité en premier. On retrouve toujours la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3:4. Quand l'un dit « moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Des hommes dans le sens charnel. Est-ce qu'on s'attache aux hommes ? Ça aide ça pour les changements pastoraux. Si le pasteur a veillé à ce qu'on ne s'attache pas à sa personne, mais qu'on s'attache à Dieu, le changement pastoral se passe bien. Je connais Thierry pour savoir que c'est certainement ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, ça n'évite pas le côté émotionnel affectif. On n'est pas fait en bois en disant « Oh là, il s'en va, moi je suis spirituel. » Bien sûr qu'il y a cette partie-là, mais ce n'est pas quelque chose qui nous déstabilise spirituellement. On est attaché à Dieu, premièrement. Pas d'attachement aux choses matérielles. Matthieu 6, alors j'ai marqué 19 à 21, mais je vous lis juste le verset 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Juste avant, Jésus dit, vous avez le choix entre vous attacher aux choses d'ici-bas ou aux choses du royaume de Dieu. L'homme spirituel, vous avez la réponse, il s'attache à quoi ? Aux choses d'en haut. Amen. Capacité de se nourrir soi-même. J'avais eu l'occasion une fois de faire une prédication où j'avais commencé avec une image avec un bébé à qui on met la cuillère dans la bouche et puis après un bébé un peu plus grand qui a lui-même sa cuillère. Et c'est quand même l'évolution qu'on doit constater chez un chrétien et qui prouve sa maturité spirituelle. Je disais l'importance tout à l'heure des ministères, mais à un moment donné aussi, en grandissant, parce qu'on a bénéficié de ces ministères, on va apprendre aussi soi-même à se nourrir. Et c'est important, soi-même, de pouvoir lire la Bible, la méditer, l'étudier. Et vraiment s'en nourrir, pas seulement juste la lire. Vous savez, les chrétiens qui sont au bout de 40 ans, encore à lire la pensée quotidienne. Quelqu'un a réfléchi pour eux. Ils mangent à la cuillère. Et c'est bon. Et peut-être qu'il serait temps que tu médites la Bible par toi-même. Et que tu cherches à l'étudier, il y a des bibles d'études, il y a Internet maintenant, il y a plein de trucs pour étudier la Bible. C'est formidable. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 18, mais on va lire juste les deux derniers versets. « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, mûr et propre à toute bonne œuvre. » Un autre trait de la maturité spirituelle, c'est la capacité à prendre des responsabilités, à servir. Je vous renvoie à la parabole des talents. Il y a 3 serviteurs, il y en a un, apparemment, la maturité spirituelle ne l'avait pas touché encore. Et je souligne d'ailleurs, la maturité, ce n'est pas la performance. On le voit dans cette parabole. On n'est pas en train de dire l'autre qui avait... Tant de talents, on a eu plus que l'autre, etc. Non, non, les deux ont la même récompense. La capacité de recevoir de la nourriture solide, autre trait de l'homme spirituel. On l'a vu, je le relis dans la première aux Corinthiens, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Autre caractéristique, l'homme spirituel ne se laisse pas prendre par des combats charnels. Ça, vous savez faire. On ne se fait jamais avoir. Éphésiens chapitre 6, verset 12, vous connaissez ce passage. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sachons discerner, mes frères et sœurs, quand les choses sont d'ordre charnel, qu'on peut les résoudre d'une manière humaine. Et il y a des moments où on constate d'une manière claire que le problème, il est spirituel. Et là, c'est à genoux qui se règle. C'est pas dans les argumentations, c'est pas dans les défenses qu'on est capable d'évoquer. Autre caractéristique, les progrès constants. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui exhorte son stagiaire pasteur et il lui dit « Occupe-toi de toutes ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Je ne sais pas si vous avez connu des gens, si vous êtes dans une église depuis longtemps, ça fait des années qu'ils sont là dans l'église et des années après, ils sont toujours les mêmes. Ils ont toujours les mêmes problèmes, ils ont toujours les mêmes dysfonctionnements au niveau du caractère, etc. Et là, moi je me dis « Mais... quelle tristesse, en fait, d'avoir marché toutes ces années avec le Seigneur et d'avoir connu aucune transformation. Nous sommes appelés à bien, bien meilleur. Je ne veux pas juger ces personnes, mais j'aimerais vous éviter de vivre la même chose et que vous puissiez avoir ce désir de marcher de progrès en progrès, non pas par les efforts que vous faites, encore une fois, mais parce que plus vous connaîtrez Dieu, plus vous marcherez et grandirez dans sa connaissance, plus vous serez vous-même transformé à son image, on l'a vu. Amen. Celui qui est mûr spirituellement, il est à son poste quoi qu'il arrive. Colossiens chapitre 3, versets 22 à 24. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. En tant que pasteur, j'ai vu tellement de fois des gens arrêter de servir parce qu'ils s'étaient fâchés avec un tel ou parce qu'on avait dit une parole qui leur a pas plu, etc. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre quand on est jeune converti, mais quand on connaît le Seigneur depuis longtemps, on doit avoir dépassé tout ça et être focalisé sur ce que Dieu nous demande. Peu importe ce qu'on dit, peu importe... Alors bien sûr, on se soumet aux autorités, on tient compte si on nous donne des conseils. Mais si à un moment donné, quelqu'un est désagréable avec nous, je ne vais pas arrêter de service parce que mon service ne dépend pas des hommes, il dépend de Dieu. Si c'est là que Dieu m'a appelé, ce n'est pas une contrariété qui va me faire arrêter. L'homme spirituel... L'homme, quand je dis l'homme, vous comprenez, c'est l'homme, la femme, hein, l'être humain. Il est autonome, mais il aime l'Église. C'est difficile, ça. Hein, être capable de pouvoir, et on n'arrête pas de nous dire qu'un jour, la France connaîtra la persécution, être capable de se dire, si demain, il n'y a plus l'Église, je tiens bon. Ça, c'est un signe de maturité spirituelle. Si demain, on m'enlève l'Église, je tiens bon. OK ? Mais est-ce que pour autant, si je dis ça, ça veut dire que je prétends pouvoir me passer de l'Église ? Non. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne dépends pas de l'Église pour ma santé spirituelle, mais que l'Église est l'endroit où je cultive ma santé spirituelle et aussi j'apporte ma pierre à l'édifice, parce qu'on va le voir en suivant. Donc, j'ai noté Hébreux 10, 25, que vous connaissez, vous pouvez lire même à partir du verset 19, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Ce n'est pas forcément l'Église qui est évoquée, mais c'est le rassemblement des chrétiens. Chaque fois que des chrétiens se réunissent dans ce texte, comme c'est la coutume de quelques-uns, « Mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ». Et l'esprit qui va avec, dans la maturité, c'est l'esprit de serviteur. Lorsque je viens à l'église, je ne suis pas consommateur. Je ne viens pas pour être servi. Je viens pour être acteur et pour servir. Amen. C'est la mentalité de l'homme spirituel. Et tellement de fois, nous avons des gens qui disent « Ah, le culte, c'était... Ah, le culte ce matin... » Oh, la prédication. Hein. Et puis ils viennent et puis ils repartent, ils font leurs commentaires, mais en fait, ils sont venus consommer, en fait. Quand on a cette attitude, c'est qu'on consomme. Si le pasteur a été nul dans la prédication, peut-être que moi, je vais donner une parole d'encouragement à quelqu'un qu'il avait besoin, que le Seigneur va mettre dans ma bouche et va repartir encouragé. OK ? Ça ne veut pas dire que vous êtes là pour compenser la nullité du pasteur. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. J'ai pas dit. Jésus est notre exemple dans ce domaine. Hein. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Comme la rançon de plusieurs. Amen. Oh, c'est un texte qui m'émerveille, ce texte. Si Jésus qui aurait pu dire, « Eh oh, servez-moi hein. !» Il avait le droit, lui. Hein. D'ailleurs, « Oh, vous êtes tous à mon service, là. Oh !» Et personne ne discute, là. Il est venu servir. Vous connaissez l'image quand il lave les pieds de ses disciples, c'est extraordinaire. La maturité spirituelle nous amène dans une autre dimension d'obéissance, parce qu'on obéit désormais, parce qu'on a connu Christ tel qu'il est, parce qu'on a connu Dieu tel qu'il est au travers de son Fils. On obéit non plus par devoir ou par peur, mais on obéit par amour. Ça change la vie chrétienne, hein, je vous le dis. Hein. Quand vous répondez à l'appel du Seigneur par amour, ça change tout. Si c'est parce que vous avez peur de la malédiction qui va tomber sur vous, ou si ça, vous avez peur du regard des autres, ou je ne sais quoi, alors vous serez un chrétien frustré. Un chrétien qui n'est pas encore épanoui. Mais quand vraiment on le fait par amour, dans Deutéronome, j'aime bien ce texte, Deutéronome chapitre 10, verset 12, où il est dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et j'aime bien ce texte parce qu'il met « aimer avant de servir ». Aimer et servir. C'est la conséquence. Et puis le dernier point, vous avez vu, je vais aller vite. Hein. 14e point, lorsque je suis mature, je suis pleinement dépendant de Dieu. Là encore, la logique, elle est renversée. Parce qu'on dit d'un enfant quand il est mature, qu'il est mature quand il n'a plus besoin de ses parents. C'est vrai. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Je suis mature quand je suis totalement dépendant du Père. Amen. Et on revient à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 22-23. Et les termes qu'emploie Paul sont... Ah, ils nous titillent. Hein. Voilà ce qu'il dit. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Libre esclave. Ça ne marche pas ensemble, ça, pour nous. Hein ? Mais dans le royaume de Dieu, si, ça marche. Esclave de Christ, tu es libre. Vous avez été racheté un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Conclusion. Je rappelle ce texte qui m'émerveille dans Éphésiens chapitre 4 où il est dit « Le but de la maturité spirituelle, c'est notre objectif en tant que chrétien. C'est mon objectif. » Je veux être marché vers la maturité spirituelle, être dans ce chemin de la maturité. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu veut et c'est à cela qu'il a mandaté son Église. Hein, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Regardons Christ et sa stature parfaite. Alors, qu'il a été homme. C'est ça qui m'encourage, en fait, quand c'est Christ qui est pris en exemple. Ce modèle parfait, il l'a eu en étant dans la même situation que moi. Il avait un corps comme le mien, il avait un cerveau, il avait tout ce que j'ai. Avec toutes les difficultés que ça peut représenter, quand on veut être un être spirituel et qu'on a tout ça qui nous embarrasse, Jésus a été capable, avec tout ça qui l'embarrassait, d'être parfait. Parfait. Amen. Et je veux ressembler à Jésus. Genèse chapitre 21, c'est le dernier verset. Verset 8, chapitre 21, verset 8. Voilà ce qui est dit quand Isaac a été sevré. L'enfant grandit et il fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. J'aimerais vous dire une chose. il y a de la joie dans le ciel quand un chrétien entre dans la maturité, qu'il est sevré. Amen. Il y a un texte qui dit il y a de la joie quand un pécheur se repent. Vous le connaissez, hein ? Mais il n'y a pas que là que le ciel est dans la joie.